Chapitre 10e. La réception de Mrs. Proudie, première partie. L'évêque et sa femme n'avaient passé que 3 ou 4 jours à Barchester, à l'occasion de leur première visite. Sa seigneurie, nous l'avons vu, avait pris place sur son trône pontifical, mais son attitude, qu'il avait voulu faire digne, avait été tant soit peu dérangée par l'audacieux sermon de son chapelain. Il n'avait pas osé regarder son clergé en face et montrer par la sévérité de son maintien qu'il approuvait tout ce que M. Slope disait en son nom. Il n'avait pas osé davantage jeter M. Slope par-dessus bord pour montrer à l'assistance qu'il était étranger au sermon et irrité de l'impudence de son chapelain. Il avait donc béni son troupeau gauchement et avec embarras, était retourné au palais, ne sachant comment il devait recevoir M. Slope. Il ne demeura pas longtemps dans l'incertitude. Il avait à peine retiré son costume que la compagne de ses travaux et de sa gloire entra dans le cabinet de travail et s'écria, avant même de s'asseoir, « Évêque, avez-vous jamais entendu discours plus sublime, plus émouvant, mieux approprié que celui-là ?
Mon amour,
L'évêque ne savait que dire. « J'espère, my lord, que vous ne pensez pas à le désapprouver. » Sa seigneurie vit dans les yeux de son épouse qu'il ne s'agissait pas de désapprouver en ce moment. Il sentait que s'il désapprouvait, ce devait être maintenant ou jamais. Mais il sentait aussi que ce ne pouvait être maintenant. Il n'était pas homme à dire à la femme de son cœur que le sermon de M. Slope était inopportun, impertinent et injurieux.
« Non, non, répondit-il, non, je ne puis dire que je désapprouve. Un sermon habilement fait, plein de bonnes intentions, et qui, je le crois, fera beaucoup de bien. »
Il ajouta ce dernier éloge parce qu'il voyait sa femme peu satisfaite des deux premiers.
« Je l'espère bien, dit-elle. Tous ces gens-là le méritaient bien. Avez-vous jamais entendu chanter les litanies d'une manière aussi théâtrale que M. Harding ?
Je prierai M. Slope de prêcher là-dessus, jusqu'à ce que l'on soit revenu à la simplicité grave et religieuse qui sied dans une cathédrale. Je ne veux plus de chants et de chanteurs d'opéra. » Et la bonne dame sonna pour le lunch. L'évêque en savait plus long que sa femme sur ce qui convient ou ne convient pas dans une cathédrale, mais il crut plus sage de laisser tomber le sujet pour le moment. « Ma bonne amie, dit-il, il nous faut retourner à Londres mardi. Des affaires importantes m'y appellent. »
L'évêque savait bien que Mrs. Proudie n'y ferait pas d'objection. Il sentait aussi que s'il quittait le champ de bataille, l'ardeur de la lutte se calmerait en son absence.
« Monsieur Slope restera ici, naturellement, » dit Mrs. Proudie.
« Oh, naturellement, » répondit l'évêque.
Ainsi, après un séjour de moins d'une semaine dans son palais, l'évêque s'enfuit de Barchester et n'y revint qu'après 2 mois. Pendant ce temps, Monsieur Slope ne resta pas inactif, mais n'essaya pas de prêcher de nouveau dans la cathédrale.
Mrs. Proudie, lui ayant écrit pour lui indiquer une série de sermons à faire, il lui répondit qu'il serait mieux inspiré quand elle serait là pour l'entendre.
Il employa son temps, et avec succès, à former un parti Proudie-Slope, ou pour parler plus exactement, Slope-Proudie. Il ouvrit 2 écoles de jour pour la sanctification du sabbat et annonça l'installation d'une salle de lecture ouverte le soir du sabbat pour les jeunes gens. Enfin, il écrivit 3 ou 4 lettres à l'administrateur de la ligne de Barchester pour lui faire savoir combien l'évêque était désireux de voir supprimer les trains le jour du sabbat. À la fin des 2 mois, l'évêque et Mrs. Proudie reparurent, faisant précéder le retour de l'annonce d'une grande soirée. Les cartes d'invitation furent envoyées de Londres, datées de Broughton Street. Elles arrivèrent à M. Slope en un gros paquet brun, que transporta l'un de ces odieux trains du dimanche. Tout ce qui pouvait s'appeler un gentleman ou une dame, dans Barchester et à 2000 à la ronde, était invité. Des cartes furent envoyées à tout le clergé diocésain, et aussi à un certain nombre de notabilités cléricales, sur l'absence desquelles l'évêque, ou tout au moins Mrs. Proudie, croyait pouvoir compter. On fit des préparatifs pour recevoir plusieurs centaines de personnes. Ce fut un grand émoi dans le camp des Grantleys. Se rendrait-on ou non à l'invitation de l'évêque ? Le premier sentiment fut qu'il fallait s'excuser sèchement. L'archidiacre comprit qu'il se mettrait dans son tort si, par lui, l'évêque éprouvait un mécontentement légitime contre le clergé de la cathédrale. On tint conseil et l'on décida d'accepter l'invitation.
ce serait rendre hommage au prélat. Quelque antipathie qu'on eût pour l'homme. Oui, tous iraient au palais, même ce Harding, qui se promettait bien de se tenir hors de la portée de Mrs. Proudie. Mrs. Bold voulut être de la soirée, quoique son père lui assura que rien n'exigeait d'elle ce sacrifice. Tout Barchester devant y aller, Eleanor et Mary Bold ne voyaient pas pourquoi elle se tiendrait à l'écart. N'avait-elle pas reçu, dans la même enveloppe que la carte, un petit billet du chapelain, conçu dans les termes les plus respectueux et les plus pressants? Les Stanhope seraient là aussi, du premier au dernier. Même la somnolente Mrs. Stanhope se réveilla pour la circonstance. Ils venaient d'arriver. La carte d'invitation les attendait chez eux. Quelle meilleure occasion de se montrer à la société de Barchester! Quelques anciens amis, entre autres l'archidiacre et sa femme, étaient venus les voir et avaient trouvé le docteur et sa fille aînée. Mais l'élite de la famille était encore inconnue de tout le monde. Le docteur aurait bien voulu déterminer la signora à refuser l'invitation de l'évêque, mais elle-même était absolument résolue à l'accepter. Si son père éprouvait de la honte à voir sa fille portée dans le palais d'un évêque, elle ne connaissait pas, elle, ce sentiment. « Mais si, j'irai », avait-elle répondu à sa sœur qui cherchait doucement à la dissuader en lui représentant qu'il n'y aurait guère que des recteurs et des vicaires avec leurs femmes. Les recteurs et les vicaires sont, j'imagine, des hommes comme les autres, si vous faites abstraction de leur renagote noire. Quant à leurs femmes, elles m'importent peu. Vous pouvez dire à papa que je ne me soucie pas de rester à la maison. » Papa se le tint pour dit et comprit qu'il fallait céder. Ce n'était pas parce que Madeleine était estropiée qu'il redoutait de la voir parmi les hôtes de l'évêque. Mais il savait qu'elle allait faire ses manèges accoutumés et tenir une conduite qui choquerait la réserve anglaise. Il rougissait d'avance à la pensée que ses confrères seraient témoins de ce qu'il prévoyait. Mais, après tout, on ne pourrait lui enlever ses bénéfices parce que sa fille mariée avait des manières trop libres. Quant à la signora Neroni, elle n'éprouvait rien de la crainte de son père. Son ambition était de faire sensation, de voir des ecclésiastiques à ses pieds, puisque la population mâle de Barchester se composait surtout d'ecclésiastiques, et de renvoyer chez elle toutes les femmes vertes de colère et de jalousie. Pour elle, on n'était ni trop vieux, ni trop jeune, ni trop austère, ni trop mondain. Elle était disposée à prendre dans ses filets l'évêque lui-même et à narguer la femme de l'évêque. Elle ne doutait pas du succès. Elle avait toujours réussi. Mais une chose était absolument nécessaire. Il fallait qu'elle eût un sofa pour elle seule. Elle apprit que Mrs. Proudie n'était pas encore au palais et que le chapelain était chargé de toutes les dispositions à prendre. Elle aimait mieux avoir affaire à lui qu'à la dame, et lui écrivit le plus gentil billet du monde. En 5 lignes, elle disait tout. Elle était très désireuse de faire la connaissance de personnes aussi distinguées que l'évêque de Barchester et sa femme, celle aussi de M. Slope. Elle dépeignait sa triste situation et, en terminant, se disait assurée que Mrs. Proudie pardonnerait la hardiesse extrême qu'elle avait de demander qu'on la transportât sur un sofa. Elle joignit au billet une de ses belles cartes dorées. Elle reçut une réponse très polie de M. Slope. Un sofa serait réservé pour son usage à l'entrée du grand salon. Le jour de la soirée était venu. L'évêque et sa femme n'arrivèrent que le matin, ainsi qu'il convenait à des gens de leur importance. Mais M. Slope avait travaillé nuit et jour à mettre tout en ordre et à tout préparer. Il avait eu beaucoup à faire. On n'avait pas vu de réunion au palais, Dieu sait depuis quand. Il avait fallu louer des meubles, acheter de la faïence de cuisine, des casseroles, des tasses et des soucoupes, des plats et des assiettes. Mrs. Proudie avait déclaré d'abord qu'elle ne s'abaisserait pas à un usage aussi vulgaire que celui de donner à manger et à boire. Mais M. Slope lui avait fait comprendre que les évêques étaient tenus à exercer l'hospitalité et que l'hospitalité consistait à offrir à boire et à manger. Le souper fut donc admis, mais on devait le prendre debout. Il y avait au premier étage du palais 4 pièces ouvrant l'une sur l'autre. C'étaient les 2 salons, la salle de réception et le boudoir de Mrs. Proudie. Autrefois, l'une des 2 dernières pièces avait été la chambre à coucher de l'évêque Grantly, l'autre, tout à la fois son salon et son cabinet de travail. L'évêque actuel avait été dépossédé et relégué dans une chambre sur le derrière, et on lui avait fait entendre qu'il pouvait fort bien recevoir ses prêtres dans la salle à manger s'ils arrivaient en trop grand nombre pour être admis dans son petit sanctuaire. Après quelques résistances, il avait dû céder, comme toujours. Le cœur de Mrs. Proudie battit violemment quand elle inspecta la série de ses salons. Ils étaient réellement magnifiques, ou du moins, ils le seraient à la lumière. Et pourtant, M. Slope avait réglé les dépenses avec une sage économie. Les pièces vastes, quand elles sont remplies de monde et bien éclairées, font toujours un grand effet, simplement parce qu'elles sont spacieuses, remplies et éclairées. Ce sont les petites pièces qui exigent des draperies coûteuses et un riche ameublement. Mrs. Proudie le savait bien et en fit son profit. Elle avait fait disposer en conséquence une énorme lampe à gaz, une douzaine de becs descendaient du plafond. Les invités devaient arriver à 10 heures. Le souper devait durer de minuit à 1 heure. À 1h30, tout le monde devait être parti. Les voitures devaient entrer par la porte du côté de la ville, sortir par la porte extérieure et être prêtes à reprendre les invités à 1h-15. Tout était admirablement agencé. M. Slope était un organisateur sans pareil. À 9h30, l'évêque, sa femme et ses 3 filles entrèrent dans la grande salle de réception, tous majestueux et solennels. M. Slope était en bas, occupé à donner les derniers ordres relativement au vin. Il comprenait bien que les simples vicaires et leurs familles ne pouvaient prétendre à déguster le même liquide que les dignitaires du parvis. Il est utile d'établir une gradation en pareille matière, et des bouteilles de Marsala à 20 shillings la douzaine étaient tout ce qu'il fallait sur les tables destinées aux membres inférieurs du clergé diocésain. « Évêque, dit Mrs. Proudie, voyant s'asseoir son mari, ne vous mettez pas sur ce sofa, je vous prie. Il doit être réservé pour une dame. » L'évêque se leva vivement et s'assit sur une chaise. « Une dame ? » demanda-t-il timidement. « Voulez-vous dire une certaine dame, ma chère amie ?»« Oui, évêque, une certaine dame, » répondit Miss Proudie, sans daigner s'expliquer. « Elle n'a pas de jambes, papa, » dit la plus jeune des filles en ricanant. « Pas de jambes ? » dit l'évêque, ouvrant de grands yeux. « Êtes-vous sotte, Netta ? Vous ne savez pas ce que vous dites, » reprit Olivia. « Elle a des jambes, mais elle ne peut s'en servir. Elle est forcée de rester toujours étendue. » Et 3 ou 4 hommes la portent où elle doit aller. « La drôle de chose, » dit Augusta. « Toujours portée par 4 hommes. Bien certainement, cela ne m'irait pas à moi. Suis-je bien par derrière, maman ? Il me semble que ma robe est ouverte. » Et elle présenta son dos à sa mère. « Ouverte, bien sûr qu'elle est ouverte. Il y a un maître de lacet qui pend. Je ne sais vraiment pas pourquoi je donne des gages si élevés à Mrs. Richards. Elle ne peut prendre la peine de s'assurer si vous êtes présentable. » Et Mrs. Proudie laça le corsage, tira la robe, fit tourner sa fille sur elle-même et déclara que tout était bien. « Mais, » reprit l'évêque, dont la curiosité était excitée au plus haut point, relativement à la dame mystérieuse et à ses jambes, « pour quelle dame est réservé le sofa ? Quel est son nom, Netta ?» Un coup retentissant frappait la porte d'entrée, interrompit la conversation. Mrs. Proudie se leva, secoua doucement sa robe, et s'assura une dernière fois devant la glace que son bonnet était bien posé. Les demoiselles refirent les nœuds de ruban de leur corsage, et M. Slope monta les escaliers 4 à 4. « Mais qui est-ce, Netta ? » demanda tout bas l'évêque à sa plus jeune fille. « La signora Madeline Wesen-Eroni, » répondit Netta à voix basse. « Et surtout, ne laissez personne occuper le sofa. »« La signora Madeline Wesen-Eroni, » répéta le prélat effaré. Lui t'on dit que la Begum Doud et la reine Pomard devaient honorer sa réception de leur présence, qu'il n'aurait pas été plus étonné. La signora Madeline Wesen-Eroni, qui n'ayant pas de jambes avait retenu un sofa dans la salle de réception, qui pouvait-elle être? Il ne pouvait prendre de plus amples informations. On annonçait le docteur et Mrs. Stanhope. Ils avaient été envoyés en avant afin que la signora eût tout le temps de se faire convenablement installer dans la voiture. L'évêque eut ses plus gracieux sourires pour la femme du chanoine, et le chanoine reçut le même accueil de la femme de l'évêque. M. Slope fut présenté. Il était charmé de faire la connaissance d'un membre éminent du clergé diocésain dont il avait tant entendu parler. Le docteur fit un grand salut et ne retourna pas le compliment, n'ayant point encore entendu parler de M. Slope. Malgré sa longue absence, le docteur savait encore reconnaître un gentleman à première vue. Bientôt, les invités arrivèrent en foule, Mr. et Mrs. Quiverful et leurs 3 filles aînées, Mr. et Mrs. Chadwick et leurs 3 filles, Le corpulent chancelier avec sa femme et son fils récemment sortis d'Oxford. Le petit chanoine maigre tout seul. Mr. Harding avec Eleanor et Miss Bold. Le doyen appuyé sur le bras de sa fille unique, grande et maigre, qui vivait avec lui. C'était une personne très versée dans les pierres, les fougères, les plantes, les insectes, et qui avait écrit un livre sur les pétales. Dans son genre, Miss Trefoil était une femme prodigieuse. Mr. Finney, l'huissier, était là avec sa femme, au grand ébahissement de ceux qui ne l'avaient pas vue encore dans un salon. Les 5 médecins de Barchester et le vieux Scalpen, apothicaire et dentiste retiré, et qui ne se douta que par l'invitation de l'évêque qu'il appartenait aux hautes classes de la société. Vint ensuite l'archidiacre, avec sa femme et sa fille Griselda, âgée de 17 ans, maigre et pâle encore, mais qui promettait de s'épanouir avec le temps en une belle jeune femme. Les salons se remplissaient, les groupes se formaient, les nouveaux arrivants présentaient leurs hommages à l'évêque et passaient, craignant d'occuper trop longtemps l'attention d'un si grand personnage. L'archidiacre serra cordialement la main du docteur Stanhope, et les deux femmes s'assirent l'une près de l'autre. Mrs. Proudie, majestueuse, mesurait la quantité de ses grâces à la qualité de ses hôtes, tout comme l'avait fait M. Slow pour le vin. Mais le sofa était encore inoccupé, et déjà 25 dames et 5 messieurs avaient été courtoisement priés par le chapelain de ne point s'y asseoir. « Pourquoi n'arrive-t-elle pas ?» se demandait l'évêque, et son esprit était si plein de la signora qu'il semblait avoir perdu son calme épiscopal et sa présence d'esprit. Enfin, une voiture roula avec un grand bruit jusqu'au pied de l'escalier. Ce fut une commotion générale. Le docteur comprit que sa fille arrivait et se retira dans l'angle le plus éloigné pour ne pas voir son entrée. Mrs. Proudie se redressa, sentant que quelque chose d'important se préparait. L'évêque comprit instinctivement que la signora Wheezy Nironi allait apparaître et M. Slope se précipita vers le vestibule pour prêter son assistance. Il faillit être renversé et foulé aux pieds par le cortège qu'il rencontra dans l'escalier. Il se retint comme il put, reprit son équilibre et se mit à l'arrière-garde. C'était la signora. Sa tête était supportée par son frère et par un domestique italien accoutumé à cet office, ses pieds par sa femme de chambre et un page italien. Charlotte Stanhope suivait pour veiller à ce que le transport se fît avec grâce et avec décence. On arriva sans encombre dans le salon, et les invités ayant ouvert un large passage, la signora fut étendue sur le sofa. Elle avait envoyé préalablement un domestique pour savoir si le sofa était à droite ou à gauche. Elle devait régler sa toilette en conséquence et mettre ses bracelets à un bras plutôt qu'à l'autre. Sa toilette était des plus saillantes. C'était une robe de velours blanc, sans autre garniture qu'une riche dentelle blanche ornée de perles au corsage et aux manches. Sur le front, elle portait une bande de velours rouge au centre duquel brillait un magnifique cupidon en mosaïque, dont les ailes étaient de l'azur le plus tendre et les jours du rose le plus éclatant. Au bras que sa position sur le sofa laissait libre de se mouvoir, elle avait 3 splendides bracelets, tous composés de pierres différentes. Sur le sofa et sous toute sa personne s'étendait un manteau ou un châle de soie cramoisie qui lui cachait les pieds. Habillée comme elle l'était, la blancheur de sa robe tirant un éclat plus vif encore du contraste de l'étoffe rouge, belle et fixant sur ceux qui l'entouraient ses grands yeux brillants et hardis, il était impossible qu'elle n'attirât pas sur elle tous les regards. Pendant quelques minutes, en effet, hommes et femmes ne la quittèrent pas des yeux. Ses porteurs aussi méritaient d'être remarqués. Les 3 domestiques étaient italiens. Dans leur pays peut-être, ils n'eussent pas attiré l'attention. Dans le palais de Barchester, ils firent sensation, l'homme surtout. On ne savait pas si c'était un ami ou un domestique. On éprouvait le même doute relativement à Ethelbert. L'homme portait une large houppelande de gros drap noir. Il avait une bonne grosse figure satisfaite sur laquelle ne se voyait pas un atome de barbe. Autour du cou, il avait une cravate large de soie noire. L'évêque commença un salut. Mais l'homme, qui était bien dressé, ne le remarqua pas et quitta le salon tranquillement, suivi de la femme de chambre et du page. Ethelbert Stanhope était vêtu de bleu clair des pieds à la tête. Il avait une jaquette bleue non ajustée, de la même coupe qu'un habit de chasse, fort courte, et doublée de soie bleu azur, un gilet de satin bleu, un foulard bleu, avec un anneau de corail en guise de nœud, de larges pantalons bleus qui lui couvraient presque les pieds. Sa barbe douce et brillante était plus douce et plus brillante que jamais. L'évêque, après sa première méprise, crut que lui aussi était un domestique et s'effaça pour le laisser passer. Mais Ethelbert eut bientôt corrigé son erreur.